La vie compte beaucoup de désagréments qui peuvent être fort divers et fort tragiques. L'idéal est donc de les considérer sous un angle moins dramatique. Facile à dire, n'est-ce pas? Le roi David connaît des ennuis sans nombre. Certes, il accuse bien les coups et reprend toujours du poil de la bête parce qu'il regarde au-delà de ses circonstances présentes et déprimantes en direction de l'Éternel. Les psaumes 61 à 68 sont l'expression de l'homme pieux persécuté, mais qui a une confiance inébranlable en son Dieu. Le psaume 61 donne d'abord une impression de tristesse et de découragement. Mais David se ressaisit vite, reprend confiance en Dieu, et c'est avec un regard d'espérance sur l'avenir qu'il termine ce cantique qu'il a rédigé alors qu'il est en fuite suite au coup d'État orchestré par son fils Absalom. Je commence à lire le psaume 61. Ô chef des cœurs, un psaume de David à chanter avec accompagnement d'instruments à cordes. Entends mon cri, ô Dieu, écoute ma prière. Des confins de la terre, je fais appel à toi, car je suis abattu. Conduis-moi au rocher que je ne puis atteindre. Psaume 61, les versets 1 à 3. Les premiers accents font penser à une marche funèbre, car c'est une prière d'appel au secours faite avec une grande intensité du fond du cœur et non du bout des lèvres. Éloigné de Jérusalem et proche des contrées païennes, David se sent loin de Dieu, comme exilé au bout de la terre. Il aspire à atteindre le haut rocher d'où il pourra repousser ses ennemis. Mais c'est l'Éternel, son vrai roc. Ce rocher est aussi une image de Jésus-Christ que l'auteur de l'Épître aux Hébreux qualifie de plus élevé que les cieux. Hébreux chapitre 7, verset 26. Je continue. « Car tu es pour moi un refuge, une tour forte face à mes ennemis. Je voudrais demeurer pour toujours dans ta tente, m'y cacher sous tes ailes. » Pause. Psaume 61, les versets 4 et 5. Cette tente est le sanctuaire de Jérusalem. Mais, au sens spirituel, c'est l'asile de ceux qui cherchent la protection de Dieu, qui sont accueillis à bras ouverts. La pause instrumentale a pour but de donner l'impression de la sécurité qu'on trouve auprès du Tout-Puissant. Je continue. Oui, ô Dieu, mes souhaits, tu les as exaucés et tu m'as accordé la part que tu réserves à ceux qui te révèrent. Ajoute de l'au jour, au jour de notre roi, et que ces années couvre plusieurs générations. Psaume 61, les versets 6 et 7. Dieu est un refuge, une tour forte et une demeure hospitalière pour tous ceux qui le révèrent. Comme David se sait élu de Dieu, il ose demander pour lui et sa dynastie un règne éternel. Je finis le psaume 61. Qu'il siège pour toujours sous le regard de Dieu. Ordonne à ton amour, à ta vérité, de prendre soin de lui. Alors je chanterai sans cesse en ton honneur, accomplissant ainsi mes vœux jour après jour. Psaume 61, les versets 8 et 9. L'amour qui pardonne, relève, protège, et d'autre part, la vérité qui préserve d'erreurs et fait marcher dans le droit chemin, sont les deux gardiens célestes que David demande comme compagnon. C'est aussi ma prière. Nous arrivons au psaume 62 qui exprime avec force la foi ferme et sereine placée en Dieu. Il contient 6 fois l'affirmation « oui » qui appuie les déclarations de foi de David face à ceux qui complotent contre lui. Ce cantique a été rédigé alors qu'il est en but aux attaques de nombreux ennemis jusque avant l'entrée de son fils Absalom dans Jérusalem. Ce coup d'État oblige le roi et son entourage à fuir. C'est la grosse pagaille. Parmi ses intimes, chacun choisit son camp. Ahithophel, un conseiller sagace et intelligent sur lequel David souvent s'est appuyé, a trahi son maître. Tsiba, serviteur du fils de Jonathan, qui fut le meilleur ami de David, accuse faussement son ancien maître de trahison afin d'obtenir ses terres. Alors que David quitte la ville, un certain Shimei le maudit et lui lance des pierres. Puis Absalom entre dans Jérusalem. La même foule qui avait acclamé David comme roi porte au nu le fils conspirateur. Des siècles plus tard, ce sont des personnes du même genre qui ont crié « Hosanna !» quand Jésus a fait son entrée triomphale dans Jérusalem et « Crucifie-le !» quelques jours plus tard. David subit l'épreuve interminable de la roche tarpéienne. C'est l'heure de sa défaite et le triomphe des ténèbres. Mais malgré ces événements désastreux, il reste calme et confiant. Le psaume 62 est un cantique tout simple où David affirme sa confiance sereine et presque enfantine qu'il oppose aux efforts de ses adversaires iniques. Il entonne même un chant de louange au plus fort de la tourmente. Un commentateur a écrit « On ne trouve nulle part ailleurs une foi en Dieu aussi noblement proclamée et triomphante. La vanité de la force et des richesses humaines aussi clairement affirmée, un courage au milieu du péril aussi calme et résolu. Le psaume 62 est aussi vigoureux dans sa structure et son langage qu'exceptionnel dans la piété radieuse et pleine de vie qu'il exalte. Je commence à lire le psaume 62. Au chef des cœurs, au Yedutum. Un psaume de David, oui, c'est à Dieu seul que, dans le calme, je me remets. Mon salut vient de lui, oui, lui seul est mon rocher et mon sauveur. Il est ma forteresse, je ne serai pas ébranlé. Psaume 62, les versets 1 à 3. Il ne fait aucun doute que parmi les fidèles de David, certains veulent qu'il montre sa confiance en Dieu en combattant. Car après tout, c'est lui qui a été désigné et sacré roi par l'Éternel. Mais David a choisi de quitter Jérusalem afin d'éviter un bain de sang. Pour lui, c'est une épreuve et non une défaite. Sa destinée est entre les mains du Dieu souverain qui contrôle tous les événements. Le grand prêtre, porteur de l'Arche de l'Alliance, accompagnait David. Mais le roi lui a dit « Ramène le coffre de Dieu dans la ville. Si l'Éternel m'est favorable, il me fera revenir et me permettra de revoir le coffre ainsi que le sanctuaire. Si par contre il déclare « Je ne prends plus plaisir en toi », eh bien qu'il me traite comme bon lui semble. » De Samuel, chapitre 15, les versets 25 et 26. La conduite de David est admirable, car n'étant ni manipulateur, ni politicien, il n'essaie pas de forcer les choses. Advienne que pourra, il se soumet à la volonté de Dieu. Je continue. Oui, combien de temps encore allez-vous tous ensemble vous ruer sur un homme pour chercher à l'abattre comme un mur qui s'affaisse, ou comme une clôture qui cède à la poussée. Psaume 62, verset 4. Toutes ces expressions font ressortir, d'une part, la faiblesse de celui que l'on veut renverser, et d'autre part, combien il est ridicule de déployer tant d'efforts pour essayer de le renverser. David pense à tous les traîtres qui l'ont déserté. Ahithophel, en particulier, parce que de confident intime, par sa traîtrise, il est devenu une personnification prophétique de Judas. Je continue. Oui, ils forment des projets pour le précipiter de son poste élevé. Ils aiment le mensonge. De la bouche, ils bénissent, mais du cœur, ils maudissent. Pause. Psaume 62, verset 5. David se souvient de Shimei. Cet homme se courbait bien bas, comme tous les courtisans de tous les palais du monde. Maintenant que Shimei a la liberté de dire ce qu'il pense, il exprime sa haine, il maudit David et lui jette des pierres. Mais Abigaï, l'un des capitaines de David, sort de ses gongs. voulant venger l'affront, il dit au roi « Pourquoi laisse-t-on ce chien crever et insulter mon seigneur le roi ? Permets-moi d'aller lui couper la tête !» De Samuel, chapitre 16, verset 9. Mais David lui a répondu « Qu'il prononce ses malédictions, car si l'Éternel lui a dit de me maudire, qu'il peut le lui reprocher. » De Samuel, chapitre 16, verset 10. Comme tout le monde, j'étais confronté aux actions de certaines personnes mal intentionnées. Et il y en a d'autres qui m'énervent. Mais je suis bien forcé d'admettre que c'est Dieu qui permet, et même qui orchestre toutes mes irritations. Bien sûr, elles sont parfois difficiles à vivre, mais elles sont aussi une occasion de développer des conduites vertueuses. Je continue le psaume 62. Oui, c'est à Dieu seul, mon âme, qu'il te faut te remettre. Mon attente est en lui. Psaume 62, verset 6. Ce verset définit bien ce qu'est la prière. Le psalmiste s'adresse à lui-même et à Dieu, s'exhortant à lui faire confiance. C'est une très bonne façon de vivifier sa foi. Affligé par les événements tragiques qu'il a vécus, David choisit de se laisser diriger par l'Éternel et non par les circonstances. Si quelqu'un de l'entourage de David lui avait suggéré d'invoquer l'Éternel, il aurait répondu que c'est ce qu'il fait, car il est constamment à son écoute. Bien que ce psaume ne contienne aucune intercession formelle, le comportement de David est une attitude de prière qui correspond bien à l'exhortation que l'apôtre Paul adresse aux Thessaloniciens de prier sans cesse. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Quelqu'un a dit que la prière efficace, c'est quand le Saint-Esprit qui habite le croyant parle au Père par l'intermédiaire du Fils. Je continue. Oui, lui seul est mon rocher, mon sauveur, ma forteresse, et je ne serai pas ébranlé. Psaume 62 verset 7. Voici la vérité centrale de ce psaume qui donne la fondation et le sens de toute la vie de David et qui fait qu'il fait partie des géants de la foi comme Abraham, Moïse ou l'apôtre Paul. Selon les apparences, David apparaît comme un mur qui est sur le point de s'écrouler. Mais avec le regard de la foi, il est en sécurité dans une forteresse. L'Éternel, le rocher des siècles, celui qui est ancré en lui peut trembler, avoir des sueurs froides, mais le roc sur lequel il s'appuie ne bougera pas. Dans le Nouveau Testament, le roc, c'est Jésus, ou son royaume, et c'est aussi la fondation de l'Église. Paul écrit aux Corinthiens, « Pour ce qui est du fondement, nul ne peut en poser un autre » que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11. Je continue le psaume. Auprès de Dieu se trouve mon salut et ma gloire, mon rocher fortifié, mon refuge et mon Dieu. Vous, les gens de mon peuple, ayez confiance en lui. Instant après instant, ouvrez-lui votre cœur. Dieu est notre refuge. Pause. Psaume 62, versets 8 et 9. David s'adresse à ceux qui l'accompagnent. Il leur ouvre son cœur et exprime ce que l'Éternel représente pour lui afin de les exhorter à placer leur confiance en lui. Si mes vraies valeurs dépendent de Dieu, elles ne peuvent être compromises qu'en apparence et de façon provisoire. Je continue. Oui. Les êtres humains sont un souffle qui passe. Les hommes tous ensemble, ce sont que déceptions. Placés sur la balance, ils pèseraient en eux tous moins que rien. Psaume 62, verset 10. David rappelle à la fois l'insignifiance de l'homme et la puissance de Dieu. Cette dernière partie du psaume 62 est similaire au 39, dont elle reproduit l'idée principale qui est le néant de l'homme. Quelqu'un a dit qui l'homme et le rien pèserait. Par cette épreuve, il trouverait que l'homme est plus léger encore. David est pleinement conscient de la fragilité humaine et c'est ce qui le conduit à dire que sa confiance repose exclusivement en Dieu, le roc inébranlable auquel il s'agrippe. Je continue. Ne comptez pas sur la violence. Ne placez pas d'espoir dans le bien mal acquis. Si la fortune augmente, n'y attachez pas votre cœur. Psaume 62, verset 11. Ce verset est en crescendo. Il s'adresse à ceux qui ont acquis les richesses par le crime, le vol ou par des événements fortuits de l'existence. Je continue. Dieu a dit une chose. Il l'a répétée et je l'ai entendue. La puissance est à Dieu. Psaume 62, verset 12. Seul ce que Dieu a dit n'est pas vain. Il parle par sa révélation écrite et par ses œuvres. Et quiconque veut entendre recueille de ce langage divin que la puissance procède de Dieu et de lui seul. C'est lui qui a mis David sur le trône et qui le ramènera à Jérusalem en temps voulu. Je finis le psaume 62. À toi aussi, Seigneur, appartient la bonté, car tu rends à chacun selon qu'il a fait. Psaume 62, verset 13. Dieu n'est pas seulement puissant, mais aussi miséricordieux. Au corps même du système de l'Ancienne Alliance, dans le lieu très saint, se trouvait le propitiatoire qui, une fois l'an, était enduit du sang pour couvrir les péchés du peuple. Dieu seul dispose du pouvoir de gracier. Puisque c'est à lui que le jugement appartient, la grâce nous permet de nous approcher de lui à tout moment et de lui vider son sac, même et surtout s'il est plein d'ordures. Les derniers mots, qui rend à chacun selon ses œuvres, sont cités textuellement par l'apôtre Paul dans Romains chapitre 2, verset 6. C'est sur cette neuve grâce que David termine ce psaume. Nous arrivons au psaume 63, qui est sans doute l'un de ceux qui ont été le plus utilisés par les croyants au travers des siècles. C'est comme un baume sur une plaie ou un pansement sur une blessure. Au premier siècle, les chrétiens chantaient ce cantique quand ils se réunissaient. Alors qu'ils s'enfuient dans le désert, chassés par Absalom, David éprouve la faim et la soif. Mais ce qu'il désire avant tout est la présence de Dieu. La joie qui remplit alors son âme lui inspire les magnifiques paroles de ce psaume que je commence à lire. Psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu. C'est toi que je recherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps même ne cesse de languir après toi comme une terre aride, desséchée et sans eau. Pour voir ta force et ta gloire comme je l'ai contemplée dans le sanctuaire. Psaume 63, versets 1 à 3. David et sa troupe sont épuisés. Ce n'est pas la première fois qu'il se réfugie dans les environs de la mer Morte, l'un des endroits les plus inhospitaliers qui soit. La vue du désert aride aggrave encore la lassitude des fugitifs. Mais, malgré la fatigue, par la foi, c'est vers Dieu que se porte le soupir de David. Son esprit et son corps ont besoin d'une communion avec lui. Je continue. Car ton amour vaut bien mieux que la vie. Aussi, mes lèvres chantent sans cesse tes louanges. Psaume 63, verset 4. Ici, la vie, c'est tout ce qui, à nos yeux, fait partie d'une existence heureuse. Santé, sécurité, famille, richesse. Aux fidèles, privés de ces bénédictions, exposés à la disette et à toutes sortes de souffrances, il reste un bien encore plus précieux et qu'ils ne peuvent perdre. L'amour, le pardon, la bonté et la grâce de Dieu. Je continue. Oui, je veux te louer tout au long de ma vie. Je lèverai les mains pour m'adresser à toi. Mon cœur sera comblé comme en un bon festin. Le corps se rassasie de mes gras succulents et je crierai de joie en chantant tes louanges. Psaume 63, les versets 5 et 6. Le soupir du psalmiste s'est déjà transformé en action de grâce. La communion avec Dieu renouvelle ses forces mieux que ne le feraient les mets les plus délicats. Je finis le psaume 63. Lorsque je suis couché, mes pensées vont vers toi. Je médite sur toi tout au long de la nuit. Oui, tu es mon appui. Je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Je demeure attaché fidèlement à toi et ta puissance me soutient. Psaume 63, les versets 7 à 9. Dans les Écritures, l'ombre de tes ailes est une image fréquente qui évoque la présence protectrice de Dieu. Le soutien divin dont David a bénéficié pendant la première nuit de sa fuite éveille en lui le souvenir de toutes les délivrances passées. Suit alors la conclusion qui est essentiellement une prière imprécatoire contre ses ennemis, comme cela était courant dans l'Ancien Testament. Nous arrivons au psaume 64, qui est une prière d'appel au secours à l'occasion d'une conspiration, mais rien ne permet de la rattacher à un moment particulier de la vie de David. Ce psaume est un encouragement pour celui qui, comme David, se trouverait dans la détresse. Je commence à le lire. Ô chef des cœurs, psaume de David, ô Dieu, écoute ma voix plaintive, protège-moi d'un ennemi qui me fait peur. Et mets-moi à l'abri des complots des méchants et des intrigues des malfaisants. Psaume 64, les versets 1 à 3. Une fois encore, David demande la protection divine. Devant la persécution, sa seule défense est d'invoquer le secours de l'Éternel. Dans le psaume 46, il a dit « Dieu est pour nous un rempart. Il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. » Psaume 46, verset 2. Je continue. « Comme une épée, leur langue est aiguisée, et ils décrochent leurs propos venimeux comme des flèches. Ils tirent en cachette sur l'innocent. Ils le visent soudain, sans éprouver la moindre crainte. » Psaume 64, verset 4 à 5. La langue est un glaive. Et ces paroles calomnieuses sont des traits qui blessent. Je continue. Ils s'enhardissent dans leurs mauvais propos. Ils se concertent pour bien cacher leur piège, en se disant « Qui s'en apercevra ?» Chacun combine des mauvais coups. Nous voici prêts, notre plan est au point. Oui, la pensée intime des cœurs de l'homme est un gouffre profond. Psaume 64, les versets 6 et 7. L'histoire humaine est amplement prouvée que la capacité au mal de l'homme est sans limite. Je finis le psaume 64. Mais Dieu leur lance soudain des flèches. Ils sont frappés. Leur propre langue cause leur chute. En les voyant, chacun secoue la tête et tous les hommes sont pris de crainte et ils proclament l'œuvre de Dieu en tirant la leçon de ses actions. Quand l'Éternel, le juste, trouve sa joie et son refuge, et tous les hommes droits s'en féliciteront. Psaume 64, les versets 8 à 11. Les méchants veulent oublier que Dieu les sonde et que tôt ou tard, ils seront jugés pour leurs actions. Il y a beaucoup d'exemples dans les Écritures et dans la vie où les hommes ignobles sont frappés à l'improviste. Il y a même des familles maudites. Le juste est celui qui se confie en l'Éternel et qui le vénère. Sa joie et son titre de gloire sont d'avoir Dieu pour défenseur et sauveur.